This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission proposée par Jean Arviols et Alain Vaquier, réalisée par Léna Kim. Cette année-là, 1944, c'est la dernière année des années d'occupation. Année, c'est beaucoup dire, puisque ça va durer à peu près 6 mois, puisqu'en juin, les Alliés vont débarquer en Normandie. Alors, les forces alliées occupent déjà une partie de l'Europe du Sud, puisqu'ils ont débarqué en Italie. Ils remontent la botte italienne. Mussolini a déjà été déposé. Il débarque également en Provence et donc l'offensive commence à se faire sentir sur le nord de la Méditerranée. Et donc, au début, en juin 1944, c'est le débarquement en Normandie et les forces donc alliées vont progresser relativement vite. Je dis ça avec beaucoup de précaution parce que pour les gens qui étaient sur place, je pense que ça ne devait pas aller assez vite. Relativement vite, et donc vont progresser vers Paris, et donc peu à peu libérer l'ensemble des territoires. C'est une période qui est charnière sur bien des plans. Si l'offensive armée, elle, se déroule comme elle a été prévue, et voit le régime nazi s'écrouler peu à peu, ensuite l'Allemagne envahie, etc., etc., pour la vie intellectuelle française, c'est un tournant. Des gens, durant l'année 43 et les années précédentes, ont collaboré. D'autres ont résisté. Et peu à peu, une nouvelle façon de concevoir les choses se fait jour. Des écrivains vont disparaître. D'autres vont apparaître sur la scène. Et c'est le théâtre qui va introduire le plus d'innovation. Alors certains auteurs vont cesser de produire des textes et quelques nouveaux vont apparaître. Alors, je cite en vrac Jean-Paul Sartre, Albert Camus, beaucoup d'autres. Et donc, on assiste à une véritable tournant dans la culture française et dans le milieu et l'émergence des intellectuels de Saint-Germain-des-Prés. Alors, je vous propose d'écouter un document qui est une série d'interviews réalisées peu de temps après la Libération. On y entend Paul-Louis Mignon, qui était critique théâtral, parler un peu de cette mutation du théâtre français, qui allait ensuite donner les mutations globales de la société française, qui la préfigure d'une certaine façon, qui fait charnière entre la période d'occupation et la libération. Vous y entendrez également Guillaume Anoto, qui est un témoin de l'époque. Albert Camus lui-même également s'exprime vers la fin de ce document.
1944, l'année de l'espoir. La fin du cauchemar est pour demain. Et les après-guerres sont fécondes. On peut découvrir l'origine de presque tout ce qui aujourd'hui nous étonne au théâtre, dans une période qui va des derniers jours de l'occupation à la guerre de Corée. Préhistoire encore proche, aussi riche en témoignages qu'en documents.
La création du malentendu d'Albert Camus était la fin de l'occupation. Et dans cette période assez exceptionnelle pour le théâtre, assez bénéfique pour le théâtre, parce que les Parisiens n'avaient pas d'autres loisirs, les amateurs de théâtre, au fond, attendaient une nouvelle génération d'auteurs dramatiques. Disons qu'à part Jean Anouilh, qui allait faire le lien entre l'avant-guerre et l'après-guerre, il n'y avait pas d'autres auteurs que Giraudoux, Salacrou, et tous ceux qui avaient illustré la période 1920-1940. Et brusquement, le malentendu, non loin de Huis Clos et des Mouches de Sartre, apportait, je crois, à la fois peut-être et sans doute une nouvelle philosophie qui s'exprimait à travers la pièce, mais aussi un nouveau langage et, disons, une ambition de tragédie qui était bien en accord avec une époque tourmentée, dure, où le spectateur cherchait à se reconnaître dans le destin des personnages. Et je crois que ce qui a frappé dans ce premier soir où on a découvert le malentendu, au théâtre des Mathurins, avec Marcel Héran, avec Maria Cazares, c'était un langage qui était celui, en effet, d'une tragédie, dans la mesure où les personnages en étaient comme prisonniers.
En tant que spectateur, j'ai assisté à cette première du malentendu de Camus. C'est une des premières les plus bizarres auxquelles j'ai assisté. Ça se passait en mai 1944, c'est-à-dire quelques mois avant le débarquement, dans ce Paris d'occupation, de la fin de l'occupation. C'était un Paris qui déjà espérait être très prochainement libéré, où il y avait les Allemands, mais où déjà les gens redressaient la tête et où Paris n'était plus le Paris vaincu qu'il avait été quelques années auparavant. Camus était à la fois un auteur célèbre et un auteur parfaitement inconnu. Il était célèbre au Flore, il était célèbre dans les milieux de la NRF, il était célèbre dans tous les milieux intellectuels, puisque son Étranger avait fait beaucoup de bruit, et puisque son Mythe de Sisyphe, qui était paru très peu de temps auparavant, avait été très lu et très discuté. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, cette gloire n'avait pas dépassé la rive gauche. Pour le gros public, Camus était totalement inconnu. Donc c'était même pour la plupart des critiques, de ces critiques d'occupation, ne connaissaient pas Camus. Et c'était donc une salle très bizarre, hein, une atmosphère tout à fait particulière. Il y avait les fanatiques de Camus qui connaissaient le grand talent de Camus, et puis il y avait les autres qui venaient et qui n'ont rien compris, il faut bien lire à la pièce.
Comment ? Pourquoi je fais du théâtre ? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri? De mépris, et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise.
Pour lui, la vie n'avait pas de sens, elle était absurde, mais l'homme devait accepter cette absurdité, ou plutôt, dans le jargon de l'époque, il devait l'assumer. Dans le malentendu, Albert Camus a soutenu la même thèse.
Albert Camus était le petit roi d'Alger. Il avait autour de lui tout un groupe d'intellectuels, d'artistes, de gens qu'il suivait, qu'il écoutait avec beaucoup d'admiration, déjà, et une grande sympathie. Camus avait ceci de particulier, que c'était un travailleur, un bourreau de travail, et en même temps, on avait toujours l'impression qu'il faisait les choses en se jouant.
Au théâtre, au contraire, le fruit du travail, qu'il soit amer ou doux, sera recueilli un soir, connu longtemps à l'avance et dont chaque jour et chaque nuit de travail rapproche. L'aventure commune, le risque couru par tous, crée alors une équipe de femmes et d'hommes tout entière tournée vers un seul but et qui ne sera jamais meilleure ni plus belle que le soir longtemps attendu où la partie enfin se joue.
Lorsque la guerre s'était abattue sur la France, Saint-Germain-des-Prés n'était encore qu'un quartier provincial et comme il faut. 4 ans plus tard, il était un village, asile pour les intellectuels égarés dans la tourmente.
Voilà, et c'est donc au fond durant ces années d'occupation qu'est né l'existentialisme et tout ce qui va en découler après la libération. Alors, je disais tout à l'heure que les Alliés avaient donc débarqué, ont débarqué en juin 1944, et l'ensemble des troupes sont toujours accompagnées par les fameux V-disques, et je vous propose d'écouter Woody Herman.
Hi, fellas, this is Woody Herman speaking. We're making V-disques today. And now we'd like to do a tune for you called Apple Honey. It's a jumper. We hope you get a kick out of it.
Thank you. just a gigolo. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what a sin. There will come a day, youth will pass away. And what will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. As life goes on without me, oh, I ain't got nobody. And there's nobody cares for me. I'm so sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me? I'll sing a sweet love song all of the time. If she will only be a little baby, but a baby, but a baby, but a little baby, I ain't got nobody. And there's nobody that cares for me. Babadoot baby, babadoot baby, babadoot babadoot baby, so so high. Ain't got nobody. And there's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Oh, some sweet mama, come take a chance with me. I ain't so bad. I'll sing her sweet love songs all of the time. She will only be, oh baby, oh baby, oh baby. I ain't got nobody. Nobody cares for me.
Vous aurez bien entendu reconnu Just Gigolo de l'inénarrable Luis Prima, que l'on entendait ici longuement. Voilà, c'était donc un de ces morceaux qui était enregistré spécialement pour les forces armées américaines et qui était destiné à leur donner du cœur à l'ouvrage, si j'ose dire. Alors, il est un autre musicien qui était un admirateur effréné, notamment de Duke Ellington et des musiciens noirs américains, et qui par ailleurs était l'un de nos grands écrivains, eh bien c'est Boris Vian. Et Boris Vian est de ceux qui, dès 1944, ont commencé à jouer avec des musiciens comme Claude Abadie, des musiciens comme Hubert Foll, que l'on a un petit peu oublié aujourd'hui, ou Claude Duterte, qui joue encore. Quant à lui, et donc Boris Vian crée un orchestre en 1944, orchestre qui va animer les années 40-50 à Saint-Germain-des-Prés. Et je vous propose d'écouter tout de suite un morceau, une composition étonnante de Charles Trenet, joué jazz. Que reste-t-il de nos amours ? Thank you. enregistré avec difficulté d'ailleurs le 24 juillet 1944. Que reste-t-il de nos amours, composition de Charles Trenet par l'orchestre de Boris Vian. Boris Vian qui jouait ici du cornet et pas de la trompette. À signaler que Charles Trenet est un des premiers chanteurs à avoir introduit le jazz, en tout cas le swing, le tempo, dans la chanson française. Alors je vous propose d'écouter un deuxième morceau enregistré par l'orchestre de Boris Vian, une composition, alors là, un standard américain, pur sucre, enregistré le 4 août 1944, « I found a new baby ». Le grand orchestre de Boris Vian, donc en 1944, peu avant la fin des hostilités qui auront lieu, évidemment, au cours de l'année suivante, en 1945. Et c'est le début de ce qu'on a appelé ensuite l'après-guerre, à la suite de l'occupation, et donc de cette période où vont prédominer deux intellectuels à grande notoriété, donc Jean-Paul Sartre et Albert Camus, et qui va voir, d'ailleurs, Boris Vian va se moquer un peu de ces personnages, notamment de Jean-Paul Sartre, puisque dans son livre L'écume des jours, il va l'appeler Jean Solpartre. Voilà. C'est donc le début de l'existentialisme, Saint-Germain-des-Prés, et ce qui a fait probablement la célébrité du Quartier Latin et de la ville de Paris, qui est devenue à partir de là l'objet de nombreux films et qui reste dans la mémoire de nombreux des touristes qui viennent encore en France. Voilà, ainsi s'achève ce dernier épisode des années 40-44, les années d'occupation. Jason est terminé et la semaine prochaine, ce sera d'autres années.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
F- François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.